La liberté, douce et précieuse amie, elle éclaire nos yeux, elle guide nos vies. C'est le droit de choisir, de penser, d'agir. Un souffle puissant qui nous fait grandir.
La liberté de parler, exprimer ses idées, sans craindre les murs qui voudraient les briser. Dire ce qu'on croit, défendre ses droits, être soi-même sans baisser la voix.
Liberté d'aimer sans règles imposées, suivre son cœur où qu'il veuille aller. Partager des rires, des joies, des promesses, c'est vivre l'amour dans toute sa tendresse.
Liberté de rêver, voler loin des frontières, imaginer un monde grand et sans barrières. Créer un futur à la hauteur de ses envies, peindre l'horizon d'une couleur infinie.
Mais la liberté, fragile trésor,
demande justice, respect et accord.
Car être libre, c'est aussi s'unir
pour que chacun puisse s'épanouir.
Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la liberté d'expression avec Lilou et Emma. C'est quoi la liberté d'expression, Emma ?
Eh bien, Athéna, c'est le droit pour chacun de dire ou d'écrire ce qu'il pense. Il a été énoncé dans l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, née de la Révolution française en 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler et écrire librement. Depuis, ce droit a toujours été réaffirmé en France, notamment la loi en 1881 sur la liberté de la presse. On dit qu'il s'agit d'une valeur de la démocratie, car sans liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser.
D'accord, merci Emma. Lilou, y a-t-il des limites à la liberté d'expression ?
Oui, Athéna. En France, la liberté d'expression est encadrée par la loi. On peut tout dire tant que cela respecte les lois au pays. Par exemple, la loi condamne les appels à la haine et à la violence. L'injure et la criminalisation et le racisme ne sont pas non plus tolérés. Jurer quelqu'un en raison de sa couleur de peau, sa nationalité, sa religion, son handicap, son sexe ou son orientation sexuelle est interdite. On ne peut pas non plus souhaiter publiquement la mort d'un individu, ni défendre ou justifier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et le terrorisme.
D'accord, merci beaucoup Lilou. Jusqu'où peut-on aller au nom de la liberté d'expression, Emma ?
Une vraie caricature mordante peut choquer, un livre provocateur peut choquer, un film engagé peut choquer, un commentaire décalé sur un blog ou une page Facebook peut choquer, une blague d'humoriste peut choquer, une œuvre d'art trash peut choquer, un discours politique ou religieux peut choquer. Défendre la liberté d'expression, c'est permettre à chacun d'exprimer son opinion, même quand elle ne fait pas plaisir à tout le monde. Évidemment, se sentir visé par une critique ou attaqué dans ses convictions, ça peut être douloureux à vivre ou difficile à accepter, mais ça fait partie de la vie démocratique. À condition, répétons-le, que la teneur de ses propos ne soit pas interdite par la loi.
Lilou, que faire quand on estime que les libertés sont dépassées ?
Chacun a un droit d'exprimer ce que certains propos, écrits ou images dépassent les bornes. On peut demander réparation si on se sent moqué, insulté ou blessé. En 2006, des associations ont attaqué en justice le journal de Charlie Hebdo, qui a accusé d'injurier les croyances musulmanes à travers ses caricatures de Mahomet. La justice de notre pays laïque a jugé que le journal n'avait pas dépassé les limites admises à la liberté d'expression en France. La justice est dépendante et rendue au nom du peuple. Elle seule peut juger de ce qui est autorisé ou ne l'est pas. En aucun cas, il n'est permis de se faire vengeance soi-même. Ceux qui ont semé la mort de Charlie en janvier 2015 en prétendant venger le prophète ne sont pas des justiciers mais des assassins.
D'accord, merci les filles beaucoup pour cette intervention.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Radio Slash, avec Emma et Charlotte, nous allons vous parler d'un sujet essentiel qui touche toutes les populations, la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. La liberté d'expression est un droit fondamental inscrit dans de nombreuses constitutions et conventions internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle garantit à chacun le droit d'exprimer ses idées, ses opinions et ses croyances sans crainte de censure ou de sanction, dans le respect des lois. Mais ce droit n'est pas absolu. Il est limité par d'autres principes fondamentaux, comme la protection de la dignité humaine, la lutte contre la discrimination et la sécurité publique. Cela signifie que même sur les réseaux sociaux, chacun doit réfléchir à l'impact de ses paroles et respecter certaines règles. Eh bien Charlotte, comment ça se passe sur les réseaux sociaux ?
Pour répondre à ta question, Amy, les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok ou X, anciennement Twitter, sont devenus des espaces où des milliards de personnes échangent chaque jour. Ils permettent de partager des idées, de débattre et de défendre des causes. Mais cette liberté d'expression sur les réseaux sociaux peut aussi poser problème, par exemple, la diffusion de fausses informations appelées « fake news ». Certaines personnes utilisent les réseaux pour partager des informations erronées ou trompeuses, ce qui peut créer des situations dangereuses, comme la propagation de fausses rumeurs. Les discours de haine, comme les propos discriminatoires ou violents, se multiplient en ligne. Les contenus peuvent blesser, exclure ou même inciter à des actes graves. Le harcèlement sur les réseaux sociaux sont parfois utilisés pour cibler des individus, en particulier les jeunes, à travers les commentaires insultants ou des attaques répétées, soit le cyberharcèlement. Ces phénomènes montrent que la liberté d'expression doit être exercée de manière responsable. Du coup, Emma, comment ça se passe l'encadrement sur les réseaux sociaux ?
Eh bien, Charlotte, plusieurs acteurs interviennent pour encadrer les contenus. D'abord, les plateformes elles-mêmes. Les entreprises comme Meta ou TikTok mettent en place des règles appelées « conditions d'utilisation » pour supprimer les contenus jugés inappropriés. Par exemple, un commentaire raciste ou une vidéo incitant à la violence peuvent être retirés. Et puis aussi les gouvernements qui, dans certains pays, les lois obligent les plateformes à retirer rapidement des contenus illégaux. Et enfin, les utilisateurs. Chacun a aussi une responsabilité. Signaler des contenus abusifs ou réfléchir avant de publier sont des moyens concrets de contribuer à un espace numérique plus respectueux. Mais il est important de rappeler que l'éducation joue un grand rôle dans ce débat. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux est une grande opportunité. Mais elle exige responsabilité et respect. Trouver un équilibre entre s'exprimer librement et protéger contre les abus est essentiel pour préserver un espace numérique de bonne qualité.
Salut à tous, ici Hugo, je suis avec Mathis.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler du droit fondamental, la liberté de conscience et de culte. C'est un sujet essentiel pour notre société, car il permet de mieux nous comprendre et nous respecter les uns les autres. La liberté de culte, de conscience, c'est le droit de penser ce qu'on veut, d'avoir ses propres idées, ses propres convictions. La liberté de culte, elle permet à chacun de pratiquer librement une religion ou d'être simplement athée. Cette liberté garantit la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1999 de la Constitution française. Ensuite, Mathis, en quoi peux-tu me dire que ces lois sont si importantes ?
Eh bien Hugo, imagine un monde où on vous impose de croire en quelque chose ou quelqu'un que tu nies. Cela impacte ta liberté de croire, non ? Mais en France, grâce à la laïcité, l'État ne favorise aucune religion, mais celle-ci permet d'y croire et les pratiquer sans aucun jugement, tant que cela respecte le bien-être de la population et les lois du pays. Pour autant, ces libertés sont des règles. La liberté de conscience ne doit pas être utilisée pour discriminer et nuire les autres. Par exemple, on ne peut pas utiliser ses convictions pour des actes violents ou pour refuser des lois de la France. Pour la liberté de culte, les responsabilités sont les suivantes. Respecter les religions de chacun, ne pas les discriminer, etc. Respecter la loi et l'ordre public, c'est-à-dire ne pas utiliser la religion pour refuser une loi. Adapter une tolérance, c'est-à-dire respecter le choix de croyance de chacun d'entre nous. Préserver l'espace commun. Les manifestations doivent se faire dans le respect de chacun, bien sûr.
Et donc en conclusion, la liberté de conscience et de culte est un pilier de notre démocratie. Elle nous rappelle que nous sommes tous différents, mais égaux, en droit. Respecter cette liberté, c'est construire une société de plus en plus solidaire.
Et vous, chers auditeurs, Nous avons une question. Pensez-vous que ces libertés sont respectées dans le monde d'aujourd'hui ? Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Salut à tous, c'est Margot. Si la liberté de la presse est morte, vive la presse. Bonjour.
Oui, Margot.
À toi, Cilia.
Le 2 décembre 1766, le Parlement suédois a adopté une loi qui est désormais reconnue comme la première loi au monde, soutenant la liberté de la presse. C'est la Troisième République. Elle est ensuite votée en 1881 et consacre définitivement le principe de la liberté de la presse en France. Dès sa naissance, la presse lutte pour la liberté et résiste à la censure. Elle bénéficie des progrès techniques, du développement économique et démocratique. À toi, Garance.
Oui, Cilia. Si la presse est une activité politique, à ses débuts, elle devient rapidement une industrie risquée mais lucrative. En France, le journal de la presse, fondé en 1836, est le premier à utiliser la publicité pour baisser son prix de vente et augmenter son tirage, donnant ainsi naissance à la presse moderne. À toi, Emma.
Oui, le développement de la liberté de la presse ne dépend pas seulement des journalistes. Il repose sur trois moteurs historiques. Le progrès technique, qui favorise la production et la diffusion des journaux à moindre prix. Le progrès économique, qui permet de financer l'activité de presse. Et le progrès politique. Margot.
Oui, même dans les démocraties, l'état de guerre entraîne la suspension de certaines libertés publiques, dont celle du droit d'informer. Le besoin d'informer augmente, mais la liberté d'informer diminue. La presse ne doit donc pas nuire à la défense nationale. Les citoyens sont soumis à une propagande organisée. À toi, Cilia.
Oui. Pour finir sur la liberté de presse, voici un exemple qui a marqué la France. À ton tour, Garance.
Oui, l'attaque de Charlie Hebdo a eu lieu le 7 janvier 2015 à Paris, lorsque deux hommes armés ont ouvert le feu dans les bureaux du journal satirique Charlie Hebdo, tuant 12 personnes et en blessant plusieurs. À toi, Emma.
Oui, ces actes de terrorisme ont été revendiqués par Al-Qaïda en raison des caricatures du prophète Mahomet publiées par le journal. L'attaque a suscité une vague de solidarité à travers le monde, illustrée par le slogan « Je suis Charlie » et a relancé le débat sur la liberté d'expression et le terrorisme. Les événements ont également conduit à des mesures de sécurité renforcées en France et ailleurs.
Salut tout le monde, ici Elias, bienvenue dans cette émission où nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la liberté, et comment elle est parfois mise en danger par le harcèlement. On entend souvent parler de la liberté, liberté d'expression, liberté d'être soi-même, mais que signifie réellement être libre ? Être libre, c'est pouvoir vivre sans peur, agir selon nos choix et respecter ceux des autres. Mais commençons par une question simple. Selon toi, Timothée, peut-on vraiment être libre quand on est harcelé ou quand on assiste à une situation de harcèlement ?
Eh bien non, Elias, on ne peut pas vraiment être libre quand on est harcelé ou témoin de harcèlement. Car ces situations limitent la liberté d'agir, de penser ou de s'exprimer par soi-même. Pour la victime, la peur et l'isolement créent un véritable enfermement, tandis que pour les témoins, la crainte d'intervenir ou le sentiment d'impuissance bloquent leur liberté morale et sociale de s'imposer face à ça. Cependant, pour agir ou pour dénoncer ou même pour soutenir, peut-être une forme déjà de libération, tant pour la victime que pour les témoins, briser le silence, c'est un premier pas vers la reconquête de sa liberté. Ah, moi ça me fait penser à quelqu'un. Connais-tu Rosa Parks, toi, Baptiste ?
Oui, Timothée. Rosa Parks est une figure emblématique de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. En 1955, à Montgomery, elle refuse de céder sa place à un homme blanc dans un bus, défiant les lois ségrégationnistes de l'époque. Son acte de résistance courageux déclenche le boycott des bus à Montgomery, mené par Martin Luther King, et marque un tournant dans le combat contre la discrimination raciale. Rosa Parks est devenue un symbole de liberté et de dignité humaine, incarnant le pouvoir de l'action individuelle face à l'injustice. Son héritage inspire encore les luttes pour l'égalité des droits humains. Samy, dis-moi, est-ce que tu peux nous faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire, s'il te plaît ?
Pour conclure, Baptiste, le harcèlement, qu'il soit physique, moral, sexuel, scolaire ou numérique, constitue une forme de violence qui a des, ré- des répercussions profondes et durables sur les individus. Peu importe la forme qu'il prend, le harcèlement repose sur des comportements de domination, de soumission ou d'humiliation, et il peut affecter gravement la santé mentale et physique des victimes. Les conséquences du harcèlement sont multiples, baisse de l'estime de soi, anxiété, dépression, isolement social, voire dans des cas extrêmes, des tentatives de suicide. Il peut toucher n'importe quel individu, quel que soit ton âge, son sexe ou son statut social.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie et bienvenue sur Radio Slash. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet universel et intemporel, la liberté des hommes. Une valeur fondamentale pour nos sociétés modernes, mais dont la conquête et la persévération nécessitent vigilance et engagement. N'est-ce pas, Justine ?
En effet, Marie, la liberté n'a pas toujours été acquise. Des textes majeurs comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ont joué un rôle central pour l'affirmer. Pourtant, encore aujourd'hui, elle reste un enjeu mondial. Emeline ?
Comment la liberté des hommes, proclamée en 1789 par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a-t-elle été construite et quels défis doit-elle encore affronter aujourd'hui ? À toi, Louisa.
Pour répondre à cette question, nous explorerons trois grands axes. Les fondements philosophiques et historiques de la liberté, les grandes étapes de la conquête de la liberté, les défis contemporains pour préserver la liberté et enfin la conclusion.
Commençons par les bases. La liberté, telle que nous la concevons aujourd'hui, a été largement théorisée par les philosophes des Lumières. Jean-Jacques Rousseau, dans Le Contrat social en 1762, affirme que la liberté repose sur des lois justes établies par la volonté générale.
Montesquieu, de son côté, dans L'Esprit des lois en 1748, insiste sur la nécessité de la séparation des pouvoirs pour garantir les libertés individuelles. Ces idées ont inspiré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen adoptée en 1789.
Ce texte proclame, dès son article, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Un texte révolutionnaire qui servira de modèle pour de nombreuses chartes internationales, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948.
Mais cette liberté, bien qu'universelle en théorie, n'a pas toujours été respectée. Elle a nécessité des luttes parfois longues et douloureuses.
Parmi ces luttes, il y a la Révolution française, elle-même en 1789, qui a renversé la monarchie absolue pour instaurer des principes de liberté et d'égalité.
Une autre étape importante est l'abolition de l'esclavage. En France, cette abolition a été proclamée une première fois en 1794, puis rétablie sous Napoléon, avant d'être définitivement actée en 1848, grâce à l'action de Victor Schœlcher.
Le XXe siècle a été marqué par des luttes pour les droits civiques. Aux États-Unis, Martin Luther King a mené un combat pacifique pour mettre fin à la ségrégation raciale dans les années 1960. En parallèle, des mouvements pour les droits des femmes ont permis des avancées majeures, comme le droit de vote pour les femmes en France en 1944.
Et n'oublions pas les indépendances des pays colonisés au XXe siècle, qui ont permis à des millions de personnes de retrouver leur liberté politique et culturelle.
Mais la liberté est-elle vraiment acquise aujourd'hui ? Pas tout à fait. Elle fait face à de nouvelles menaces, notamment à travers la surveillance numérique et les atteintes à la vie privée.
Dans certains pays, la censure reste une arme puissante pour limiter la liberté d'expression. Des journalistes sont emprisonnés et assassinés simplement pour avoir rapporté la vérité.
Pourtant, il y a aussi des progrès. En France, par exemple, la légalisation du mariage pour tous en 2013 a été un pas important pour garantir l'égalité et la liberté de chacun de choisir sa vie.
Les mobilisations citoyennes pour le climat, les droits de minorité ou encore l'égalité homme-femme montrant que le peuple du monde entier continue de se battre pour élargir et protéger leur liberté.
Alors, que retenir de cette exploration ? La liberté, comme l'a affirmé l'ADDHE de 1789, est un droit fondamental qui repose sur l'égalité et le respect des lois.
Mais c'est aussi un combat permanent. Chaque génération doit défendre ses acquis face aux nouvelles menaces et oppressions, qu'elles soient sociales, politiques ou technologiques.
La liberté est une valeur universelle, mais elle ne peut survivre que grâce à l'engagement de tous, partout dans le monde.
Merci à vous de nous avoir écoutés. Continuons à défendre ensemble cette valeur essentielle qui est la liberté. À très bientôt sur Radio Slash.
Bonjour à tous, ici Neila. Aujourd'hui nous sommes avec Lisa et Sophia et nous allons nous intéresser à la liberté d'expression. Alors Sophia, qu'est-ce que la liberté d'expression ?
Eh bien Naïla, la liberté d'expression, c'est un droit fondamental qui permet à chacun de partager librement ses idées et ses opinions sans crainte de censure. Essentielle à la démocratie, elle favorise le débat public et l'information des citoyens. Mais elle comporte des limites, notamment face aux discours incitant à la haine et aux menaces afin de protéger la sécurité publique et les droits d'autrui. Cependant, la mise en pratique de ce droit varie considérablement d'un pays à l'autre en raison de facteurs politiques, culturels et juridiques.
D'accord, Sophia. Mais d'où vient la liberté d'expression, Lisa ?
C'est une tradition laïque, républicaine et démocratique qui a commencé à émerger vers la fin du XVIIIe siècle, avant seules les autorités royales, seigneuriales ou religieuses avaient le droit de s'exprimer librement. La liberté d'expression est inscrite à l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle fait partie des droits fondamentaux. Plusieurs textes internationaux garantissent la liberté d'expression, notamment la Convention européenne des droits de l'homme.
Tout à fait, Lisa. Nous sommes dans un pays où l'on peut s'exprimer librement, mais dans certaines circonstances, nous n'avons pas seulement le droit de s'exprimer, nous avons aussi le devoir. Ailleurs dans le monde, la question de la liberté d'expression se pose de manière très différente et la majorité des populations mondiales vit sous des régimes dont les priorités ne sont pas les mêmes que les nôtres. Des hommes et des femmes sont harcelés, emprisonnés, torturés pour avoir dit ce qu'ils pensaient. La liberté d'expression est un trésor, c'est un immense pouvoir que chacun doit exercer avec responsabilité. Merci à tous et à bientôt sur Radio Slash.
Radio
Slash.